bienvenue dans le journal radiophonique amplifié numéro 49 du jeudi 14 mars 2019. Pour retrouver votre journal avec l'information mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Alors aujourd'hui, Marie, on va parler de l'international et du national. Au programme, il y a le Brexit, l'Algérie, les tests osseux sur des migrants, l'affaire Barbarin et d'IVG. On y va.
C'est parti, on commence donc par l'international avec une brève avec toi, Maxime, sur le Brexit.
Effectivement, on ne les compte plus désormais et c'est donc un énième revers pour la première ministre britannique Theresa May ce mardi 12 mars après le rejet par les députés de l'accord de Brexit qu'elle avait conclu avec l'Union européenne. Et de même, le mercredi 13 mars, lorsque plusieurs de ses ministres ont bravé la consigne du Parti conservateur pour voter un amendement excluant le non-deal, même après la date butoir fixée au 29 mars. Or, nous apprenons à l'instant, super génial pour ma brève, que les députés britanniques ont voté pour un report du Brexit au mois de juin, qui doit maintenant être validé par l'Union européenne. Où un refus risque-t-il de nous mener? Ça, j'en ai aucune idée. Mais en cas d'acceptation, nous aurons des élections pour les Britanniques au Parlement européen en mai, ce qui est un comble pour le pays qui a voté il y a déjà 3 ans pour sa sortie de l'Union européenne. Pourtant, la négociation, elle est terminée, a réaffirmé le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, avant d'ajouter « Le Royaume-Uni doit nous dire ce qu'il veut pour notre relation future », allusion subtile ou non de l'Union européenne pour les Britanniques vis-à-vis de leur modèle voulu pour le Brexit.
Un point maintenant sur une situation tout aussi chaotique, celle du Venezuela. Alors rappelons les faits, Juan Guaido est président autoproclamé du pays depuis le mois dernier, mais le président en exercice, Nicolas Maduro, contesté par la population mais soutenu par la Chine et la Russie, dénonce une prise de pouvoir qu'il juge illégale, soutenue par les États-Unis et menace pour la souveraineté du Venezuela. Maduro a d'ailleurs refusé de faire rentrer les convois d'aide humanitaire en fermant temporairement la frontière avec le Brésil et la Colombie, d'où étaient acheminés les convois. Plus récemment, 21 des 23 États ont subi une panne d'électricité qui n'a fait que renforcer la précarité dans laquelle est plongée une population qui peine à trouver nourriture, soins médicaux et eau potable. Maduro dénonce un sabotage piloté par les États-Unis. Les experts de l'opposition expliquent le fait par une simple défaillance des infrastructures. Une enquête s'est ouverte hier contre Juan Guaido, accusé d'être impliqué dans un soi-disant sabotage du système électrique du Venezuela, un événement que Guaido a jugé digne d'un scénario hollywoodien. L'Algérie maintenant.
En effet, parce que l'élection présidentielle est reportée, Abdelaziz Bouteflika renonce à se représenter. Et c'est la première prise de parole du vieux symbole de la révolution nationale que... depuis des années. Et c'est aussi une des plus grandes manifestations qu'on a vues en Algérie depuis une vingtaine d'années.
Petit problème de micro, excusez-moi. Je disais donc l'élection présidentielle algérienne est reportée parce que Abdelaziz Bouteflika renonce à être candidat. Mais à la joie de cette victoire s'est succédé la méfiance et l'amertume. Parce que après l'une des plus grandes manifestations qu'a vu le pays depuis des vingtaines d'années, on a plutôt la sensation d'une gueule de bois. On dit que le pouvoir ou que le système semble avoir joué avec pour une fois la souplesse pour pouvoir maintenir l'ordre et que Bouteflika a été renouvelé pour un an. Le pouvoir propose une grande conférence pour préparer une nouvelle élection l'année prochaine, en gardant à sa tête des symboles de la révolution nationale. Le bras de fer continue entre l'État et la rue, et on se demande alors quel sera le prochain coup, qu'il soit de force ou d'État.
On continue donc avec ce qu'on pourrait appeler l'affaire Boeing, peut-être, Benoît ?
Tout à fait. La communauté internationale se ferme aux avions Boeing 737 MAX 8 et 9, à l'exception des États-Unis, dont le président a fait savoir qu'il soutiendrait jusqu'au bout son industrie aéronautique. Après la catastrophe aérienne qui a tué 157 personnes le 10 mars en Éthiopie, l'Europe a suspendu tous les vols de cet appareil. La liste des pays interdisant les vols de ce Boeing s'allonge chaque jour alors que les causes du crash ne sont pas encore connues. Les États-Unis, avec le soutien du Canada, se retrouvent donc isolés face à l'immense pression internationale et ont persisté dans leur refus de se rallier à l'interdiction du vol.
« Et pour finir l'international, une brève sur Macron en voyage en Afrique. En ce moment et depuis 3 jours, Emmanuel Macron est en voyage diplomatique en Afrique et entame aujourd'hui sa 3e et dernière escale, puisqu'après Djibouti et l'Éthiopie, c'est au Kenya qu'est arrivé hier soir un président français très attendu. Un des enjeux de ces visites devenues trop rares sur le continent africain, eh bien souligner l'importance stratégique de la région clé qu'est la Corne de l'Afrique et lutter contre l'influence croissante de la Chine dans la région. Mais Macron ne s'en tient pas aux symboles et aux belles paroles. À Djibouti d'abord, allié historique et stratégique de la France, le président visite la base française, la plus grande d'Afrique, et met en garde son homologue contre la tentative chinoise de multiplier les investissements pour réduire la souveraineté du pays. En Éthiopie ensuite, Macron célèbre la coopération et l'amitié et signe 2 accords majeurs. Le premier concerne l'aide pour la conservation et la restauration du patrimoine éthiopien. Le second est relatif à la défense et à la sécurité et prévoit notamment le renforcement de la composante navale des forces armées éthiopiennes. En bref, des objectifs que Macron a résumés lors d'un entretien avec le Premier ministre éthiopien. Nous voulons, je cite, « porter le renouvellement qui est le vôtre et prendre part à cette nouvelle page de l'histoire de l'Éthiopie ». Et au Kenya enfin, où un président français se rend pour la première fois depuis 1963, les négociations sont placées sous le signe des intérêts économiques. Des compagnies françaises vont en effet développer une ligne de train vers l'aéroport de Nairobi et Vinci sera chargé de construire un axe routier important. Macron a donc annoncé une série de contrats d'un montant de 3 milliards d'euros pour les entreprises françaises qui investiront au Kenya. Un programme chargé donc pour une visite aussi riche en symboles qu'en enjeux stratégiques, économiques et militaires. Et le mot de la fin, Grande America, un naufrage qui fait beaucoup parler de lui.
Oui, un incendie s'est déclaré à bord de ce navire italien le 10 mars dernier à 20h au large de la France et le bateau a coulé 2 jours plus tard. Le navire contenait 2200 tonnes de fuel qui pour l'instant n'ont pas tous été libérés dans l'océan. La nappe d'hydrocarbures est actuellement de plus de 10 km et touchera sans doute les côtes de la Charente-Maritime et de la Gironde d'ici dimanche ou lundi. Les départements sont donc maintenant en préalerte pollution. Des navires anti-pollution devraient être dépêchés sur place, mais rien n'est moins sûr avec une mer aussi agitée qu'elle l'est actuellement. Il faut préciser que le bateau transportait 365 conteneurs, dont 45 classés comme contenant des matières dangereuses. Tandis que Yannick Jadot en a profité pour critiquer le laxisme qui existe autour du transport maritime, notre ministre de la Transition écologique, François de Rugy, nous a rassuré « L'État va tout faire pour réduire l'impact de la pollution sur nos côtes ».
Passage maintenant au national et on commence avec le cardinal Barbarin.
Oui, alors le cardinal Philippe Barbarin, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre, sera reçu lundi prochain en audience privée par le pape. Il y a une semaine, le prélat avait annoncé devant la presse qu'il irait au Vatican remettre sa démission. La condamnation du plus haut dignitaire catholique français poursuit une longue tradition de condamnations similaires en 2001 et en 2018. Le jugement reproche, entre autres, devant une défense dédouanant de toute volonté de cacher les faits à la justice, d'avoir fait le choix en toute conscience de ne rien dire aux autorités judiciaires afin de préserver l'institution à laquelle il appartient.
Retour maintenant sur une récente polémique qui a fait beaucoup parler. Le syndicat national des gynécologues obstétriciens, ou SYNGOF, a demandé à ses adhérents, afin, je cite, de faire entendre au ministère de la Santé ses revendications sur le fonds de garantie de la profession, de se tenir prêt à arrêter la pratique des IVG. Cette annonce, qui s'apparente à ce qu'on peut bien appeler un appel à une grève des IVG, a suscité de vives réactions. La ministre de la Santé a dénoncé des menaces inadmissibles et la prise en otage des femmes comme levier de négociation. Marlène Schiappa a évoqué un chantage inacceptable et une menace envers les droits des femmes. Et les ONG, elles, soulignent un délit d'entrave à l'IVG contraire à toute déontologie médicale. Bref, une décision qui interroge sur la vision du droit à l'IVG et sur l'utilité de l'usage de moyens de chantage aussi radicaux. Affaire à suivre donc. Puisqu'on parle de santé.
Oui, la loi santé. Donc la ministre de la Santé Agnès Buzyn a présenté hier son projet de loi santé en Conseil des ministres. Le texte contient entre autres la fin du numerus clausus limitant le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine, la mise en place de labels hôpitaux de proximité qui prévoit la labellisation de 5 à 600 établissements recentrés sur la médecine générale et la gériatrie, mais sans chirurgie ni maternité. Et cette prochaine loi modifie d'autre part les règles d'autorisation des activités des soins et des équipements dans les urgences et crée aussi un statut unique de praticien hospitalier. Ces 4 derniers points, donc qui ne sont pas les seuls, sont pourtant ceux qui demeurent donc les principaux points de critique à ce jour.
Et on passe au billet d'ici avec toi Maë.
C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct. Le 19 juillet 2016, à Beaumont-sur-Oise, Adama Traoré perdait la vie suite à son interpellation par la gendarmerie. L'affaire prend rapidement une grande ampleur médiatique après que la famille ait porté plainte pour homicide involontaire, entrave à l'enquête et non-assistance à personne en danger. Suivent des manifestations à Beaumont-sur-Oise et à Paris pour obtenir vérité et justice pour Adama. Dès le début de l'affaire, pourtant, l'affaire s'enlise. 4 rapports d'expertise médicaux sont faits, lesquels apportent différentes conclusions à la mort du jeune homme de 24 ans sans s'accorder sur sa cause. Les gendarmes incriminés nient toute responsabilité, mais là encore, leurs témoignages divergent, notamment divergent de celui des sapeurs-pompiers arrivés les premiers sur les lieux. La justice, elle, se fait attendre par la famille d'Adama et notamment sa grande sœur, Assa Traoré, à la tête du collectif La Vérité pour Adama. 2 ans après les faits, les 3 gendarmes ayant procédé à l'interpellation du jeune homme n'avait par exemple toujours pas été entendu par les juges d'instruction. Cette affaire devient rapidement une bataille de communication. Mardi 12 mars, alors que la justice venait de faire savoir qu'elle s'apprêtait à clore l'instruction, un nouveau rapport d'expertise médicale réalisé aux frais de la famille d'Adama est paru, balayant les conclusions avancées jusque-là. Contrairement aux précédents experts, ceux-ci, spécialistes des 2 maladies citées dans le dossier, sont formels. La mort du jeune homme n'a pu être causée par sa condition médicale. Ils remettent d'ailleurs en cause déontologiquement les premiers experts, je cite, « la tentative de validation ou de légitimation de cette conclusion en faisant appel à des notions scientifiques théorique sur la sarcoïdose et drépanocytose amène à des conclusions biaisées sur le plan intellectuel, voire de l'éthique médicale. Maître Yacine Bouzrou, l'avocat de la famille, dans une interview sur BFM TV, interroge également le sérieux de l'enquête.
Et je pense que c'est très embêtant pour nos contradicteurs qui ne souhaitaient pas qu'un élément médical vienne un petit peu éclaircir ce dossier. Et c'est un petit peu incompréhensible de notre côté, du côté de mes clients. Vous parliez tout à l'heure de tension. Mmh. Moi, c'était pas de mon rôle de parler de tension ou pas. Mais ce que je remarque, c'est que mettez-vous à la place de mes clients. Depuis 2 ans et demi, un membre de leur famille est mort. Mmh. Un premier expert dit que Adama Traoré est mort suite à une infection généralisée. C'est faux, c'est archi faux, ça a été attesté par la suite. Deuxièmement, on dit qu'il est mort à cause d'une maladie cardiaque. C'est faux, archi faux. Ça fait déjà 2 raisons qui ont été inventées. Ensuite, on vient dire que c'est à cause de la sarcoïdose. C'est faux, archi faux. Et enfin, on dit que c'est à cause de la drépanocytose, éventuellement parce qu'il a couru 400 mètres. Permettez-moi de vous dire que les experts nommés par la justice étaient incompétents, ont rendu des expertises biaisées. Et là, je reprends les termes des professeurs de médecine qui viennent rendre de l'expertise, il y a même un problème d'éthique médicale.
Ce nouveau rebondissement dans l'affaire d'Adama Traoré résonne de manière particulière dans un contexte social où les violences policières sont de plus en plus pointées du doigt. À l'époque des faits, en 2016, la situation avait déjà été particulièrement tendue, notamment en banlieue parisienne où des émeutes avaient éclaté. Le cas d'Adama Traoré est devenu en quelque sorte un symbole de la lutte contre les violences policières qui disent rarement leur nom. Contrairement au jugement rendu par exemple pour le cas Ziad Bena et Bouna Traoré, cette affaire donne lieu à une investigation approfondie. Néanmoins, la difficulté rencontrée par la famille d'Adama pour réfuter une à une les thèses officielles de la justice sur le décès du jeune homme, rappelle la difficile mise en lumière des violences policières actuelles. En juillet dernier, encore, des émeutes avaient éclaté à Nantes après la mort d'un jeune tué par balle. C'est sans évoquer les multiples cas reportés comme celui de Théo Louaka en 2017. La mort d'Adama Traoré peut apparaître en effet comme un exemple tragique des violences systémiques et raciales perpétrées par la police dans des banlieues et des relations avec les forces de l'ordre qui se dégradent sans cesse et sans qu'on y reconnaisse vraiment.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Merci Maë, et sans plus attendre, on passe à la revue de presse avec toi Marie.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
La revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on la commence avec...
Eh bien, on la commence avec un petit teaser, puisque ce que nous dit la presse d'aujourd'hui ressemble beaucoup aux éléments d'un scénario de film. Alors, un scénario de film, mais de quel genre? Eh bien, c'est la question. Film d'action, drame ou film catastrophe, à vous de voir.
Et on commence donc par le film de combat.
Oui, sur la une de l'Express ce matin, en effet, deux figures bien connues qui s'étaient affrontées à coups de poudre de palimpinpin et de logorée outrée en mai 2017, et un titre, Macron-Le Pen, le match retour. Pour Christian Macarian dans Libé ensuite, le vrai match est bien celui qui oppose Macron à Viktor Orban. D'un côté, un président qui veut s'afficher comme leader continental et qui défend liberté, diversité des opinions et création. Et de l'autre, un premier ministre hongrois attaché à un nationalisme revisité, à la lutte contre la finance internationale et à faire pencher en son sens le groupe de Visegrad.
On parle d'Europe donc dans la presse du jour.
Exactement, et on passe ici, on peut le dire, dans un registre qui se rapproche du drame. Dans l'édito de Libé, la grande idée, c'est que l'Europe n'a plus de cap. En guise de preuve, la journaliste souligne les récents événements, tous symptomatiques de la dérive d'un projet européen qui peine à rester cohérent. Le vote sur le Brexit d'abord, les désaccords entre Macron et l'Allemagne et la situation en Italie. Le Point, lui, préfère au mélodrame l'ironie cynique et propose cette semaine un magnifique photomontage. Macron les yeux levés au ciel et les mains tendues au-dessus d'un billet de banque. Et pour accompagner la photo, la phrase suivante, les classes moyennes supérieures va chaler de l'État, Macron va-t-il continuer à faire payer les mêmes? Rassurez-vous, on ne parlera pas ici de film à suspense, il semblerait qu'on ait déjà deviné à la fois la réponse à la question et la fin du film.
Combat, drame, ironie, et si on parlait un peu d'action?
Bonne idée en effet, puisque c'est un appel à l'action que nous lance aujourd'hui l'Obs. Oui, nous tous, nous avons une mission, il faut sauver le soldat Macron, c'est ainsi que Serge Raffi a choisi de titrer son édito. Certes, nous dit-il, notre président a pris de haut la France d'en bas et s'est laissé dévorer par son hubris démesuré. Mais il reste le représentant légitime de l'État de droit et le président de la République que le peuple a élu. Plus encore, il serait, je cite, le rempart contre le chaos, l'insurrection généralisée et contre une France trumpisée. Le plan d'attaque donc, penser à un nouveau pacte social et éventuellement voter contre Macron aux prochaines élections, mais pour l'instant, protéger la République. Mais bon, tout ça n'est qu'un détail face au sujet que tous les journaux ont choisi de traiter aujourd'hui, chacun à leur manière, l'urgence climatique.
Une urgence climatique que tous, je crois, ne voient pas du même œil.
Exact. Dans certains journaux, on parle des héros du scénario qui se joue aujourd'hui. Dans les Arocs, par exemple, on affiche en couverture un jeune manifestant, gilet jaune sur les épaules et les mots « No Planet B » inscrits sur le front, et on consacre un article à la désobéissance civile, devenue essentielle dans des sociétés qui vouent à la croissance un culte démesuré. Sur la une de l'Obs, Greta Thunberg une pancarte à la main et un titre en grand caractère « Comment les jeunes vont changer le monde ». Et dans Libé en titre « Pour en finir avec la fin du monde » et on laisse la place aux écrivains. C'est Nicolas Mathieu, prix Goncourt de cette année, qui est rédacteur en chef du numéro et invite une trentaine d'auteurs à partager leur vision sur l'actualité.
Une vision lucide mais pas toujours enthousiasmante.
Exactement. Nicolas Mathieu d'abord croit voir dans la lucidité des jeunes une énergie du désespoir, énergie dont a bien besoin un monde dominé par des optimistes, soucieux, je cite, d'enrober le drame du réel du meilleur alibi pour ajourner les mesures qui s'imposent. Et dans lequel, je cite une nouvelle fois l'écrivain, nous allons dans la nuit, les mains tendues, gémissant et sans pouvoir comme des zombies. On sombrerait presque dans le film d'horreur. Mais Jean-Marie Clézio, lui, préfère le biopic et dresse un portrait de Greta Thunberg, cette Suédoise de 16 ans qui a initié le mouvement des grèves pour le climat. Reçue par les plus grands, elle évite dans ses discours les hyperboles, les statistiques inutiles et les promesses de Gascon et nous fait pour l'auteur méditer sur une question troublante. Comment avons-nous osé accepter que ceux qui vont pâtir le plus du réchauffement climatique seront les générations futures, soit justement celles qui n'ont pas participé au saccage de notre planète?
Mais c'est une question que ne semble pas se poser Laurent Alexandre dans les pages de l'Express.
Oui, et là, accrochez-vous, on bascule dans le film d'horreur. En effet, le chirurgien énarque et entrepreneur, on note le profil, nous livre dans les pages de l'Express une vision inédite du mouvement des grèves pour le climat. Pour lui, on ressuscite les peurs de l'an 1000 en faisant croire à une jeunesse qu'elle brûlera sous les flammes du réchauffement climatique et on tente d'imposer, je cite, par la dictature, un vrai retour en arrière. Et le journaliste de citer Greta Thunberg réclamant une division par quatre de notre consommation énergétique, une mesure selon lui totalement illogique qui ramènerait notre consommation au niveau de celle du Nigeria. En bref, j'espère que vous êtes bien assis sur votre chaise, on persuade la jeunesse que la seule solution est d'accepter la dictature et de revenir au Moyen-Âge, alors interdisons aux ayatollahs verts de démoraliser nos enfants et de les rendre dépressifs. Bon, rassurez-vous, l'antidote à tout cela, c'est l'action, et plus précisément celle des jeunes, les héros du jour. Environnement, démocratie ou climat, l'humanité dresse le portrait d'une génération qui a décidé de prendre les choses en main. Il s'agit d'abord d'une analyse. Analyse du mode d'action de ces moins de 25 ans qui mêle deux éléments essentiels. La ZAD d'un côté sur les grands combats politiques contre le système et de l'autre les petits éco-gestes et le combat hyper local. Dans l'Obs ensuite, il y a les portraits, tous aussi inspirants les uns que les autres. Sonita Alizadeh, qui rappe pour dénoncer le mariage forcé, Carolina Farska, à l'origine d'un vaste mouvement de contestation populaire contre la corruption en Slovaquie, Joshua Wong, qui fonde à 17 ans un parti politique pour l'autodétermination de Hong Kong, ou Kelvin Do, qui invente des batteries à partir de soda, d'acide et de métal, et apporte à son village du Sierra Leone de l'électricité ainsi qu'une station radio.
Et c'est super inspirant tout ça, mais alors on parle beaucoup de films et je crois qu'il est aussi question de littérature aujourd'hui.
Oui, à l'occasion du Salon du Livre qui a lieu ce week-end à Paris, les journaux en profitent pour nous donner des conseils de lecture. Dans Le Monde par exemple, on nous recommande chaleureusement Les Racines de la Colère, ouvrage du photographe Vincent Jarousseau, un artiste qui s'est installé 2 ans à Denain, dans le Nord, ancienne cité de l'acier considérée aujourd'hui comme une des plus pauvres du pays, afin de raconter, je cite, « une France qui n'est pas en marche ». Un livre documentaire sous forme de roman photo qui nous plonge dans l'intimité et la lutte quotidienne de 8 familles. Et puisqu'on parle de littérature, citons aussi L'Humanité, pour qui seule la culture peut sauver l'Europe, ou cet article du Monde qui évoque un curieux concept mis en place par le Cercle du Soleil. Les cahiers de doléances poétiques, ou quand Ariane Mnouchkine, propose aux spectateurs de noter leurs souhaits et leurs envies. Et le résultat, qui mêle envie, coup de gueule et poésie, est inspirant. Vive la culture et l'air pur, vive la dictature du bonheur, j'aimerais qu'on remplace les sirènes de Paris par celles des violoncelles, peut-on lire entre autres. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les prochains articles de presse ne nous parlent plus de films catastrophes ou de mélodrames, mais plutôt de biopics inspirants, de comédies ou d'aventures.
Merci Marie. Et on passe maintenant à la notion pourrie avec Arthur. Arthur, tu vas nous parler d'une réforme tout aussi pourrie que ta notion.
En effet, parce que nous voyons aujourd'hui dans notre beau pays de France revenir une bien vieille réforme, à savoir la privatisation. Parce que la loi Pacte, qui a été retoquée par tout le monde, à savoir la droite, la gauche, le Sénat, mais qui est défendue par la majorité, prévoit la privatisation des aéroports de Paris. C'est la première fois que l'on revoit une privatisation aussi violente et aussi légalisée que depuis 2002 et depuis les nombreuses privatisations de Jospin. Et ce qui étonne tout le monde, c'est d'essayer de privatiser un actif aussi rentable et aussi bien géré que les aéroports de Paris, qui nous rapportent entre 600 et 1 million d'euros par an environ, contre seulement 250 ou 300 millions proposés par le principal repreneur, Vinci. Et là, il faut en être rendu quand même au dernier degré de la stupidité pour supposer que les acteurs privés sont capables de maximiser le profit d'une entreprise qui a pourtant été essorée par des plans sociaux, par un magenariat qui est quand même presque spartiate et qui a réalisé une ouverture aux entreprises privées telle que cela frôle quand même l'indécence. Il suffit à quiconque disposant d'un neurone fonctionnel d'observer qu'Aéroports de Paris est un monopole naturel. C'est-à-dire que le marché n'a aucune efficience sur sa productivité et qu'il est nécessaire que l'État s'en occupe, puisque les profits ne peuvent être réalisés que si on est dans une situation de monopole. Et vouloir offrir à la concurrence un actif aussi rentable et utile, c'est quand même patauger au mieux dans la sottise, au pire dans la corruption avouée, aussi gaiement que les porcs se roulent dans leurs propres excréments. Et en plus de ça, on est en train de reporter une réforme usée qui a prouvé ses faiblesses dans de nombreux partis. Par exemple, la Poste, le gouvernement se braque ainsi contre les principales critiques. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la privatisation des aéroports de Paris, ça ne vole pas bien haut.
Merci pour ce super jeu de mots.
Jusqu'à 21h,
le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et maintenant, c'est l'édito économique avec toi, Charlotte.
Ouais, on commence par un chiffre, 40. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le nombre de villes dans lesquelles aura lieu demain la grande grève pour le climat. Alors, moi, je peux que vous inciter à vous y rendre, bien sûr, mais je peux surtout vous expliquer les raisons économiques pour lesquelles il faut protéger la planète et les moyens économiques par lesquels on peut le faire.
Bien alors Charlotte, pourquoi un économiste voudrait-il défendre la planète ?
Eh bien, le premier argument qu'on pourrait trouver à la protection de l'environnement économique, ce serait la tragédie des biens communs, pour reprendre la formule et le titre du livre de Gareth Hardin, un économiste. Il y explique que les commons, c'est-à-dire les biens qui sont rivaux, c'est-à-dire que si j'en profite, un autre ne pourra pas en profiter, mais non exclusifs, c'est-à-dire que je ne peux empêcher personne d'en profiter, comme par exemple les ressources halieutiques, les poissons, je peux empêcher personne de pêcher autour de moi. Par contre, quand moi je pêche, je prends potentiellement les poissons d'un autre. Eh bien, ces biens-là sont par leur nature même menacés, car on peut en profiter autant qu'on veut, mais quand on en profite, on les fait disparaître. Et donc, le problème, c'est que ces commons constituent le capital productif d'un pays. Donc, c'est une catastrophe économique de ne pas les protéger, d'où le fait qu'il faut les réguler pour protéger la planète.
C'est super tout ça, Charlotte, mais je pense que c'est pas le seul argument économique qu'on peut trouver pour justifier d'aller marcher demain.
Eh ben, exactement. Un autre argument économique qu'on pourrait trouver a été mentionné par Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Stiglitz s'était insurgé contre la soi-disant efficacité économique brandie par Trump pour justifier de sortir des accords de Paris sur le climat. Et il a fait valoir le fait que ne pas protéger la planète contribue à générer une incertitude qui pèse sur les agents économiques et ainsi pâtit à l'économie. Et par exemple, aux États-Unis, le secteur des assurances a très mal vécu la décision de Trump à l'époque. On pourrait aussi mentionner les travaux de pointe de l'Institut sur le climat de la London School of Economics, la LSE, qui montrent l'instabilité financière qui est générée par le risque climatique.
Waouh, alors Trump n'aurait pas raison sur tout, c'est assez étonnant. Autre chose encore pour nous motiver à make a planet great again?
Eh ben, un dernier argument, on pourrait mentionner le concept d'externalité négative, comme les économistes l'appellent, qui génère les activités néfastes à l'environnement.
Et c'est quoi ce barbarisme d'externalité négative?
Eh bien, en fait, les externalités négatives, c'est tout simplement les conséquences négatives d'une activité économique d'un agent sur les autres agents. Et cette activité économique génère donc sur les autres agents un coût supplémentaire pour eux. Par exemple, les activités de pollution d'un individu génèrent des coûts supplémentaires pour les autres agents, des coûts de dépollution par l'État, etc. Donc encore une raison pour les économistes de protéger la planète.
Mais alors Charlotte, dis-moi, comment faire ?
Eh bien, disons qu'en économie, on considère qu'on peut agir grosso modo sur deux choses, les prix ou les quantités, c'est-à-dire en gros les deux composantes d'un marché économique classique.
Alors comment on agit sur les prix par exemple ?
Eh bien, la bonne vieille taxe. Et celle-là, elle a un petit nom, elle s'appelle la taxe pigouvienne, car on la doit aux travaux de Pigou en 1937. Elle stipule que son montant doit être fixé de telle sorte que son prix soit suffisamment désincitatif, de manière à ce qu'il permette de rencontrer une demande limitée d'un produit qui nuit à la planète, pour que sa production soit maîtrisée et encadrée par les pouvoirs publics par ce levier-là.
Et comment on agit sur les quantités alors ?
Eh bien, en fixant des quotas, c'est une mesure radicale, parfois privilégiée par certains économistes, qui permet immédiatement de réguler la quantité produite de biens polluants ou mauvais pour l'environnement.
Et j'imagine qu'il y a encore plein d'autres mesures dont disposent les économistes.
Mais bien sûr, par exemple, développer les incitations avec des outils financiers. Par exemple, le système de bonus-malus qui a été mis en place sur l'achat des véhicules neufs en France. C'est-à-dire que si j'achète un véhicule neuf qui est entre guillemets respectueux de l'environnement, j'ai un bonus. Et au contraire, si j'achète un véhicule neuf dévastateur écologiquement, j'ai un malus sur mon achat.
La seule conclusion possible, alors, c'est protégeons la planète.
Exactement, et j'espère que cette introduction à l'économie de l'environnement vous en aura convaincu.
Merci Charlotte. Et il est 20h57 sur Transistor. Vous avez eu toutes vos informations. On passe à Maxime avec l'édito scientifique.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Maxime, tu vas nous parler de la sensibilité du végétal.
Et oui. Imaginez tout un monde sensible jusqu'alors insoupçonné. Imaginez une tulipe capable de ressentir et d'apprécier l'environnement vivant et non vivant à proximité d'elle. Et pas seulement la lumière, mais aussi les sons, les odeurs, les contacts. Imaginez vos plants de tomates bien piquées dans leur jardinière, capables d'interagir entre eux et de communiquer. Bref, de taper la causette à l'heure du thé. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans ce nouvel édito scientifique sur la sensibilité du végétal.
Alors Maxime, qu'entendons-nous exactement lorsque nous parlons de sensibilité des plantes ?
Alors, n'allez évidemment pas imaginer que nous parlons de la même sensibilité que celle que nous connaissons à l'homme ou aux animaux. Le questionnement scientifique à ce sujet est relativement récent. Les premières études concrètes datent des années 70. Mais tout tend tout de même à montrer que les plantes développent des aptitudes qui leur permettent de percevoir leurs proches congénères et certaines perturbations environnementales telles que des stress ou des agressions et généralement d'y construire une réponse appropriée. Ainsi, si on en croit ces chercheurs de l'université de Tel Aviv, les plantes seraient belles et bien sensibles au son, notamment au bourdonnement des abeilles. Selon ces universitaires, la concentration en sucre dans le nectar floral augmenterait dans les 3 minutes qui suivent la captation des ondes sonores émises par les abeilles. Les plantes réagiraient ainsi à ces sons pour attirer les insectes et favoriser de cette manière la pollinisation. Mais alors comment les plantes, en l'occurrence ici Œnothéra drummondii, parviennent-elles à capter ces ondes sonores ? Eh bien la clé résiderait au sein des fleurs. des plantes amputées de quelques pétales se seraient effectivement montrées moins réceptives à ces sons. De plus, les plantes seraient également capables d'isoler des sons, enfin des bruits de fond, comme le vent par exemple, pour mieux se concentrer sur ces bourdonnements. J'aimerais que les gens comprennent que l'ouïe n'est pas uniquement liée aux oreilles, a ainsi confié la chercheuse Marine Veid au National Geographic.
Cela veut dire que des plantes seraient capables d'entendre, donc ?
D'entendre, oui, mais pas seulement. D'autres études tentent à démontrer que les arbres seraient capables de percevoir des sons et des odeurs, de distinguer leurs voisins et de communiquer entre eux, grâce notamment à une batterie de capteurs biologiques. C'est ce que vient appuyer une étude suédoise menée par Ali Helhakim de l'Université suédoise des sciences agricoles en mai 2018, portant sur de jeunes plants de maïs. Pour compenser leur vie immobile, les plantes auraient développé des mécanismes de perception et de réponse à leur environnement. Elles peuvent ainsi détecter la présence de leurs voisins et modifier leur croissance en conséquence afin de limiter la compétition entre les individus. Les chercheurs ont identifié des molécules porteuses de cette communication sécrétée par le système racinaire et transitant par le sol. Ces signaux souterrains, renseignant les plantes sur leur environnement et les aidant à diriger leur croissance, seraient à l'origine, par exemple, du phénomène de timidité des cimes. Dans la continuité de l'étude de cette sensibilité, c'est grâce à des électrodes plantées dans les tiges de jeunes peupliers que des chercheurs de l'Institut National de la Recherche Agronomique, fin 2018, ont enregistré des réactions électriques similaires à un influx nerveux chez l'être humain lorsque des arbres ont été fléchis par le vent. Des informations donc que le végétal semble capable d'enregistrer dans sa mémoire. Les végétaux savent très bien percevoir le vent et son intensité. Un arbre qui va se trouver confronté à un vent inhabituel va réduire sa croissance en hauteur pour augmenter sa croissance en diamètre et faire plus de racines, selon les mots de Bruno Mouglia.
Des recherches qui font tomber le mur dressé depuis Aristote entre animaux, sensibles et capables de mouvements actifs, et plantes, seulement capables de végéter ?
Eh oui, et c'est tout l'intérêt de ces études. Bruno Mouglia souligne d'ailleurs que les plantes sont des êtres pleins de tact, bougeant tout le temps, mais à leur rythme, plus calme que le nôtre. Le scientifique pointe ainsi l'effet avatar, en référence au film de James Cameron, selon lequel de grands ensembles seraient vivants et sensibles, mais à une échelle différente de la nôtre. C'est ainsi que l'INRA s'est retrouvé à collaborer avec des spécialistes en intelligence artificielle pour traiter du sujet et limiter tout anthropomorphisme. Ces rapports devraient attirer et attiser la curiosité de nombreux scientifiques sur ce sujet, qui s'empresseront certainement d'éclaircir certains points encore dans le flou, tels que comment les vibrations sont-elles décodées par les plantes, comment cette mémoire du végétal fonctionne, comment se fait-il que les individus de parenté puissent se reconnaître, quelle peut être l'influence de l'homme au regard de ces nouvelles informations sur les plantes, et comment se nourriront les végétariens soucieux du bien-être végétal. Beaucoup de questions soulevées donc, et un domaine entier de la science qui n'attend plus qu'à être exploré.
Merci Maxime.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et à 21h passées de 3 minutes, bonsoir Mathilde, c'est l'heure de ton billet écolo.
Bonsoir Rémi, enfin à l'antenne.
Oui, demain il y a donc une grève mondiale des jeunes pour le climat. Si nos auditrices et nos auditeurs ne l'ont pas compris, c'est vraiment qu'il faut aller consulter. Alors, c'est une marche organisée dans des centaines de villes sur la planète. Et est-ce que par hasard, je sais pas, supposons que ton billet écolo d'aujourd'hui aurait quelque chose à voir avec ce tout petit événement qui nous tombe brutalement dessus?
Oui, ça aurait été difficile dans cette chronique de ne pas aborder le sujet. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de la mobilisation de la jeunesse pour le climat. Le phénomène n'est certes pas nouveau, mais il prend de l'ampleur, cela est indéniable. Alors j'aimerais l'étudier un peu plus en profondeur avec vous aujourd'hui.
Du coup, avant d'en parler dans sa globalité, est-ce que ce mouvement, allez, toucherait par exemple l'ENS, où nous sommes actuellement?
On ne sait jamais. Eh bien oui, enfin, les étudiants de l'ENS vont participer à cette grande mobilisation. C'est fou, hein. J'étais sûre que t'étais pas au courant. Alors d'abord, en organisant des ateliers de sensibilisation le matin et des débats en petits groupes sur des questions d'écologie, il y aura aussi des ateliers pour fabriquer ses propres pancartes. Et ensuite, en organisant deux grands départs groupés pour la marche de l'après-midi qui débute à 14h à Bellecour.
Alors les jeunes sont de plus en plus nombreux à se mobiliser, même les jeunes de l'élite républicaine normale sup. C'est très très bien tout ça, mais ce mouvement mignon ne semble pas faire beaucoup de vagues. Alors est-ce qu'on peut espérer quelque chose d'un tel rassemblement ?
Ce qu'on peut espérer, ce n'est pas nécessairement que le gouvernement réagisse, même si c'est censé être le but de toutes ces marches. Je pense qu'il faut éviter d'être naïf en s'attendant à une réaction à la hauteur de la part de l'État. Ce qui est extrêmement intéressant en fait dans cette dynamique, c'est tout ce qu'elle suscite. Du collège jusqu'aux universités, les étudiants doivent coopérer, se coordonner, se renseigner sur leurs droits, sur la manière d'organiser une manifestation, sur les techniques de communication. Ces marches sont l'occasion pour des jeunes de différentes villes, de différentes universités, de se rencontrer et autour de cette préparation a lieu une véritable formation. C'est une initiation à l'engagement politique et à la mobilisation. Parce qu'il est devenu un mouvement de masse, entraînant de plus en plus d'étudiants. Pour beaucoup d'étudiants, ce sera leur première manifestation demain, la première étape de leur engagement politique, leur entrée dans la contestation. Cette marche pour le climat est donc l'occasion de s'apercevoir à quel point chacun peut être force de proposition et d'action.
Ok, c'est bien beau tout ça, mais dans ce rassemblement, j'imagine qu'il y a des avis très divergents quant à la politique à suivre pour sortir de la crise climatique et sociale. Du coup, est-ce que ce grand et beau consensus fleuri ne serait pas un tout petit peu superficiel ?
Bon, tu n'as pas complètement tort, Rémi,
rarement.
Ne faut pas se leurrer. Le mouvement rassemble autour du constat du réchauffement climatique. Mais lorsqu'on creuse un peu, certains manifestants soutiennent la croissance verte, le capitalisme, alors que d'autres veulent faire la révolution, alors que d'autres encore sont là pour voir comment ça se passe sans savoir ce qu'ils feront demain. Cependant, la mobilisation s'est organisée autour d'un noyau dur, Youth for Climate, et de manifestes inter-écoles qui rassemblent des milliers d'étudiants. Ces manifestes, eux, sont plus concrets, puisqu'ils rassemblent des listes de propositions, comme interdire la publicité marchande qui pousse à la surconsommation, lutter contre le lobbying en séparant plus clairement pouvoir économique et politique, ou réguler la taille des entreprises. Cette position plus ambitieuse est perceptible dans les slogans un peu moins consensuels et faciles que l'on pouvait entendre lors de la marche du 22 février à Paris, lorsque Greta Thunberg était à la tête du cortège. Anticapitalisme, l'écologie libérale enfante le capital, c'est des slogans qu'on entendra sûrement demain, puisque cette cinquième journée de grève correspond à la cinquième leçon donnée au gouvernement par les élèves du groupe Revendication, qui s'est formé suite à l'AG Interfac du 8 février. Cette cinquième leçon donnée au gouvernement est la revendication de la fin de l'organisation capitaliste mondialisée, la fin d'une économie qui ne prend pas en compte la notion de ressources finies. Le premier ultimatum, lui, déclarait l'urgence écologique et sociale, le deuxième portait sur l'énergie, le troisième sur l'alimentation et le quatrième sur l'écoféminisme. Il y a donc bien toute une réflexion derrière ces marches et de véritables idées politiques qui grandissent. Et puis, on ne peut pas dire que ce mouvement n'a pas d'écho lorsqu'on apprend aujourd'hui que Greta Thunberg a été proposée pour le prix Nobel de la paix. Les grèves étudiantes ne sont donc pas en train de révolutionner le monde et d'enclencher de grandes évolutions en ce moment même, mais elles sont les graines qui vont faire pousser le changement de demain, en espérant juste que demain arrive dans pas trop longtemps.
Merci beaucoup Mathilde. Nous verrons bien, il paraît que d'ici quelques heures demain apparaîtra, mais pour l'instant apparemment on va parler encore un petit peu radio.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et on passe à l'actualité de la radio avec toi Rémi.
Alors ce début de mois de mars est marqué par une décision du CSA et puis une politique du gouvernement attendue depuis un petit moment. Avant de vous en dire plus, je vous propose tout de suite d'écouter Franck Riester, ministre de la Culture, sur France Culture justement le 5 mars dernier dans la matinale.
On est convaincu qu'il faut envoyer un message fort d'une ambition pour l'audiovisuel public. Et par exemple, ça passe par ce qui va être annoncé demain par le CSA, c'est l'inscription des antennes de Radio France dans cette nouvelle technologie qui est la radio numérique terrestre, la RNT, avec la technologie DAB+. En lien avec Sybille Veil et la direction de Radio France,
la
présidente de Radio France, on a pris la décision de réserver 6 places, 6 fréquences pour les antennes nationales, toutes les antennes nationales de Radio France, et ce qu'on appelle une place en local étendue pour toutes les antennes de France Bleu. Donc il y a une ambition très forte en matière d'audiovisuel public, et c'est mon démontre aussi que nous croyons dans cette nouvelle technologie de la radio numérique terrestre, qui, un peu comme la TNT, va permettre d'améliorer la qualité du son et de permettre d'enrichir les contenus de radio grâce à cette nouvelle technologie.
Et diminuera aussi les problèmes pour nos amis auditeurs qui ont du mal parfois à nous recevoir, les antennes de Radio France.
L'engagement du gouvernement est fort dans cette nouvelle technologie et fort en matière d'audiovisuel public. Radio France et ses antennes seront sur l'ARNT.
Alors, une plus grande qualité de son, un enrichissement des contenus et puis peut-être même une plus grande couverture du territoire par la radio. Mais quelle est donc cette RNT qui porte autant de belles promesses et à laquelle s'ouvrent donc les six radios nationales de Radio France? Eh bien, petit tour d'horizon de cette technologie qui est en train de gagner petit à petit vos postes de radio. Et parlons tout d'abord qualité du son, puisque qu'est-ce que c'est cette RNT? C'est l'équivalent justement de la TNT avec la radio, un radio numérique terrestre. Il s'agit donc de diffuser un signal sonore numérique qui sera diffusé sur d'autres bandes de fréquences que la bande FM, avec la promesse d'un son plus clair, avec moins de souffle sur ce son numérique qui pourrait s'étendre entre une qualité de 64 kbps, plutôt mauvaise, à 256, quelque chose qui serait donc plutôt bon. Avec des contenus qui seraient également enrichis, annonce-t-on, il y aurait d'une part plus de diversité dans les radios qui serait permise par le multiplexage. En effet, sur une même fréquence, 8 radios pourraient émettre ensemble sur la même fréquence un signal où les 8 canaux seraient multiplexés, puis démultiplexés par votre récepteur. Ça multiplie donc par 8 la possibilité d'ouvrir des fréquences. Et puis des informations complémentaires seraient diffusées en parallèle du signal, par exemple des informations sur ce qui se passe à la radio à ce moment-là, ou pourquoi pas même une image d'illustration qui s'afficherait sur votre récepteur. Rendez-vous compte, ce saut dans le futur. Troisièmement, une meilleure couverture du territoire, fameuse promesse de la RNT, avec moins de brouillage déjà par le signal en radio numérique, pas de dépendance à Internet non plus, c'était déjà le cas de la FM effectivement. Mais donc une meilleure couverture qui serait néanmoins dépendante évidemment à la couverture du territoire en récepteur, puisque votre petit récepteur de FM n'étant pas muni de la puce de démultiplexage, il ne pourra pas écouter la RNT. Pour l'instant, 21,3% de la population est couverte par la RNT par des antennes. On est censé atteindre 70% en 2020. Donc on a encore 4/5 du territoire à couvrir également là-dessus. Et c'est donc l'ouverture de 6 fréquences nationales de Radio France qui a été décidée par le CSA, 6 fréquences de DAB+, puisque c'est le nom de notre nouveau standard de RNT. Donc pour France Culture, France Inter, France Info, France Musique, Le Move et FIP, oui, je pourrais enfin, moyennant la modique somme correspondant à l'achat d'un petit démultiplexeur, écouter FIP dans ma campagne tarnaise. Oui, ce serait possible, mais pas sûr en revanche que ça facilite la vie de toutes les radios, en particulier des radios associatives. D'une part, pour diffuser sur un multiplex, eh bien, il faut être 8, c'est la première des conditions, et donc créer des sociétés de multiplexage. On imagine peu d'endroits où il y aurait suffisamment d'associatives pour en trouver 8 qui veuillent bien se mettre ensemble, et les associatives se retrouveraient donc à devoir négocier avec les radios commerciales pour pouvoir s'insérer dans ce nouveau système, ce qui promet une certaine perte d'indépendance dans les prises de décision quant à la diffusion par les sociétés de multiplexage qui seraient ainsi composées. Ensuite, évidemment, il faut payer la diffusion. Très très peu de radios associatives sont capables de diffuser elles-mêmes leurs émissions. Évidemment, la diffusion à RNT impliquant des investissements technologiques, le coût serait également assez important pour le passage en RNT, et c'est quelque chose que craignent beaucoup les radios associatives que de se retrouver un peu mises hors de la course, à moins que peut-être elles soient autorisées à diffuser à prix un petit peu moins cher pour évidemment une qualité du signal nettement moindre. Bref, c'en est fini probablement de la FM qui offrait une qualité à peu près équivalente à toutes les radios, avec maintenant cette gamme de qualité sonore qui va probablement s'aligner en face d'une gamme de prix. Alors, les associatives seraient subventionnées par le fonds de soutien à l'expression radiophonique, ce fonds qui existe depuis 1981 pour soutenir les radios. Il y aurait, paraît-il, des rallonges qui serait ouverte pour les associatives qui s'ouvrent au DAB+, mais celui-ci est peu à peu réduit à une aumône année après année. Il y a fort à parier que ça ne soit pas tout à fait suffisant. Et de fait, comme avec la TNT il y a maintenant quelques années, dans les endroits où sont développées la RNT, on observe surtout le fleurissement des radios commerciales. C'est donc un sujet à surveiller parce que la liberté de la radio en dépend un petit peu, même si cette RNT ouvre effectivement de nouvelles perspectives. À surveiller donc surtout si le DAB+ est voué à devenir peu à peu le nouveau standard de diffusion radiophonique. En effet, même si ce n'est pas encore prévu à ce jour en France, plusieurs pays comme la Norvège ont d'ores et déjà décidé de suspendre ou carrément suspendu leurs émissions en FM.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et en attendant la radio du futur, vous pouvez continuer à écouter la bonne vieille radio Transistor. Et à 21h15, c'est l'heure d'écouter surtout de la musique avec Benoît et May.
Alors May, quel est le point commun entre un alto et une grenade?
Quand tu l'entends, c'est trop tard.
Ou je vais dire des trucs simples. I need somebody.
Les fans de métal progressif ne l'attendaient plus, et pourtant c'est bien un nouvel album de Dream Theater, Distance Over Time, qui sort le 22 février dernier. Le sextet new-yorkais, formé en 85, alors que ses membres suivaient encore leur formation de jazz à la prestigieuse université de musique de Berkeley, sort aujourd'hui son 14e album studio. Après un album précédent très ambitieux mais ayant essuyé de vives critiques négatives quant à sa longueur, son peu de profondeur et ses touches mielleuses, Dream Theater revient aux sources avec l'un de ses albums les plus directs et le plus court depuis les années 90. Le titre de l'album, Distance Over Time, laisse entrevoir ce qui a été comme de longues années à patiner. Essuyant à tort, mais souvent à raison, des critiques à propos d'albums à la longueur stérile, d'assemblages exemples de cohérence, le tout privilégiant la composition individuelle, du guitariste aux dépens des autres albums, des autres membres du groupe. Qu'à cela ne tienne, le groupe s'est ainsi de nouveau reformé et a composé collectivement depuis durant un mois au fond de l'état de New York, pour aboutir, au bout de quelques mois seulement, à une nouvelle sortie.
Et du coup, c'est nul ?
Eh bien non, une grosse surprise, alors que j'avais pris quelques distances avec les derniers albums du groupe, me paraissant beaucoup trop froid et dénué de toute ambition musicale autre que technique, le travail de composition, s'il est loin d'être parfait, laisse tout de même trop trouver aux fans de progressif une structure se voulant complète, mais ne se dérobant pas tout à fait au sens plus général. La qualité de l'album doit beaucoup au resserrement des compositions sur des thèmes plus heavy. Malgré tout, Dream Theater retombe ici dans certains travers qui viennent me contrarier, notamment des choix de composition un peu abrupts par instant, qui donnent encore l'impression que le combo n'arrive pas tout à fait à canaliser ses idées, mais aussi les cymbales encore un poil trop étouffées sur le mixage.
T'es quand même tatillon, hein.
Je sais, mais avec un groupe avec une telle dimension, il m'en faut peu pour trouver des défauts. Cet album reste pour moi un des meilleurs qu'ils aient composé depuis longtemps, et constitue d'ailleurs une belle porte d'entrée vers un style de musique assez spécial et pointu, pouvant paraître aujourd'hui assez vieillot. En bref, je les attends de pied ferme au Hellfest en juin.
Ce soir, je parle opéra.
Je ris de me voir si belle en ce miroir.
Merci Benoît d'avoir fait. En fait, demain soir a lieu la première de l'Enchanteresse de Tchaïkovski à l'Opéra de Lyon. Ce sera la première de l'œuvre peu interprétée, mais néanmoins une des favorites du compositeur, qui sera jouée en France.
Une première nationale.
Exactement. Écrit en 1887 à Saint-Pétersbourg, l'opéra en quatre actes sur un livret d'Hippolyte Tchaïkovski. Kaki, merci les noms russes, met en scène Kouma, une cousine russe de Carmen, libre, forte et amoureuse, dont le destin s'achève dans la folie, sous l'orage et les éléments déchaînés. La musique, elle, est fondamentalement tchaïkovskienne, intense et sombre, accompagnant à merveille les trames dramatiques, elle nous berce amoureusement dans un lyrisme romantique inimitable. Metteur en scène Andriy Zoldek qui se chargera d'accompagner vos pupilles à l'Opéra de Lyon du 15 au 31 mars dans une mise en scène moderniste que de toute façon vous avez peu de chances de voir si, comme moi, vous vous contentez d'une place à 10€ au troisième rang du cinquième balcon. Je vous conseillerais plutôt alors de fermer les yeux pour savourer les 4 heures de musique qui vous ramèneront dans cette Russie du fin 19e siècle.
Qui sent quand même très bon la révolution d'octobre.
Il y a toujours quelque chose d'incroyable à se retrouver plongé dans le noir, englouti par le son d'un orchestre, dans une salle qui rappelle en musique tout le tragique et le grandiose des vies humaines et de l'histoire. Quelque chose de frissonnant dans ces ondes qui vous touchent droit au cœur, envoyées à l'unisson par des artistes aux doigts et aux cordes vocales affûtées par des heures de répétition.
Giornalo radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
Merci Benoît, merci Maï. Et on a fini avec la musique, alors on part à l'école avec toi Arthur. Aujourd'hui tu vas juste nous dire que l'école n'est pas une entreprise.
Oui, bonsoir Mathilde. En effet, l'école n'est pas une entreprise. Suppression de classes, réduction des effectifs enseignants et appauvrissement de la condition enseignante ressemblent ni plus ni moins à un sabotage de l'école. Ces désastreux constats ne suffisent pas à caractériser la mutation historique de l'école. L'institution scolaire ne joue plus seulement une fonction dans le capitalisme, comme le montraient les analyses critiques des années 1970. Elle se plie de l'intérieur à la norme sociale du capitalisme. L'employabilité est l'objectif de la normalisation de l'école, de son organisation et de sa pédagogie. L'école devient peu à peu un système hiérarchisé d'entreprises productrices au service de l'économie de la connaissance. L'école tente davantage de fabriquer des individus aptes à s'incorporer dans la machine économique qu'elle cherche à transmettre une culture et des savoirs qui valent pour eux-mêmes. Les effets inégalitaires de la concurrence, la mutilation culturelle introduite par la logique des compétences ou la précarisation croissante du monde enseignant révèlent la perte d'autonomie de l'école par rapport au nouveau capitalisme et aux luttes des classes sociales autour de l'enjeu scolaire. L'école est aujourd'hui soumise à des pressions considérables pour qu'elle se conforme aux nouveaux commandements du néolibéralisme auquel toute institution doit se soumettre. Le système éducatif n'y échappe pas. Dans ce nouveau modèle, il est menacé de se réduire à la formation du capital humain nécessaire aux entreprises. En s'appuyant sur une enquête approfondie, le sociologue Christian Laval montre comment les recommandations des experts de l'OCDE, de la Banque mondiale, de l'OMC et de l'Union européenne ont été appliquées par les différents gouvernements français depuis les années 1980. Elles se sont traduites par une réorganisation managériale des établissements scolaires, mis en concurrence entre eux pour assurer la liberté de choix des consommateurs d'école, par une professionnalisation toujours plus poussée des études, par une décentralisation qui n'a rien à voir avec la démocratie promise. Les enseignants sont sommés de participer activement à cette métamorphose de l'école publique qui ouvre la voie à une marchandisation générale des savoirs et des apprentissages et à un renforcement des inégalités. Les transformations présentes de l'école ne sont intelligibles qu'à la lumière du développement du capitalisme néolibéral. À l'époque du capitalisme industriel, l'école et le capital se développaient selon des logiques relativement autonomes. Certes, l'école favorisait la reproduction de l'ordre social, ainsi que le montrèrent notamment Bourdieu et Passeron, mais ceci sans renier son autonomie. Les savoirs, les professeurs et l'institution obéissaient à des normes spécifiques, irréductibles aux normes du marché. C'est ce qui change avec le néolibéralisme. Les savoirs, tout d'abord, sont transformés de l'intérieur. La connaissance devient marchandise. Elle n'existe plus que dans la mesure où elle produit compétences et innovations utiles à la production. L'école évalue par conséquent les savoirs risquant de n'être pas payants. On se souvient par exemple de la petite phrase de Nicolas Sarkozy qui déclarait en 2006 « L'autre jour je m'amusais, on s'amuse comme on peut, à regarder le programme du concours d'attaché d'administration. Un sadique ou un imbécile avait mis dans le programme d'interroger les concurrents sur la princesse de Clèves. Je ne sais pas si cela vous est arrivé de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de la princesse de Clèves. Imaginez un peu le spectacle !» Cette remarque révélatrice témoigne d'un triple mépris. D'abord un mépris de classe envers la guichetière à qui est déniée toute légitimité à avoir accès à un savoir considéré comme inutile. Ensuite, mépris de la culture littéraire. Enfin, mépris des femmes, puisque l'attaché d'administration serait forcément féminin, les tâches subalternes étant naturellement réservées aux femmes. De plus, la misogynie implicite de la remarque est renforcée par le fait qu'il s'agit d'un roman d'analyse sur une femme, la princesse de Clèves, écrit par une femme, Madame de Lafayette, pour un lectorat principalement féminin.
C'est alors le moment de se demander si l'institution scolaire elle-même n'est pas transformée par cette pensée utilitariste des savoirs.
Mais oui, tout à fait, parce que la généralisation de la formation par alternance et la multiplication des stages dès le collège laisse entendre depuis quelque temps que le seul véritable lieu de formation serait l'entreprise et non l'école. La conséquence est aujourd'hui assumée. L'école doit se conformer aux normes de fonctionnement de l'entreprise. Rien d'étonnant dès lors à ce que les élèves et les parents se considèrent de plus en plus comme des clients. C'est précisément ce que le pouvoir néolibéral veut qu'ils soient. Cette réforme globale rencontre finalement un dernier obstacle dans l'éthique professionnelle du corps professoral, encore largement hostile à l'intrusion des normes marchandes. Autonomie des établissements, pouvoir renforcé des chefs d'établissement, précarisation du métier d'enseignant, nouvelles méthodes d'évaluation des personnels sont autant d'armes pour venir à bout de cette ultime résistance. Mais alors comment lutter dans cette nouvelle configuration? Comment s'opposer au projet scolaire néolibéral? La réalisation intégrale de l'école néolibérale n'a rien de fatal. Résistance sourde, lutte collective, prise de conscience des dangers de cette mutation imposée par la globalisation du capitalisme, les acteurs de l'école doivent désormais affronter un débat crucial qui engage aussi le modèle de civilisation que nous voulons.
Merci Arthur pour ce petit détour par l'école. Et c'est fini pour le journal radiophonique amplifié du 14 mars, il est 21h27, on finit un peu en avance. Aujourd'hui le journal radiophonique amplifié c'était avec Arthur Kramer, Marie Douniac, Maxime Seguin, Maë Burla, Benoît Auclair et Arthur Guérin-Turc. En régie il y avait Félix mais aussi Nelly et nous remercions également ENS Média pour son soutien technique. Le journal radiophonique amplifié c'est une émission coordonnée par Mathilde Picard et Rémi Cerda. Rémi Cerda qui est aussi le photographe officiel de la radio, je crois. Et la prochaine diffusion, c'est dans 2 semaines. À bientôt sur Transistor.